Radio Alliance Plus, au fil des pages.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus dans cette émission Au fil des pages. Dans cette émission Au fil des pages, nous recevons des écrivains, des gens qui s'intéressent aux livres. La semaine dernière, nous avons parlé d'un projet de nouvelle librairie, mais aujourd'hui, nous accueillons Véronique Richard. Bonjour madame.
Bonjour monsieur Delors.
Bonjour, vous êtes autrice, qu'est-ce qu'on dit, auteur, autrice, qu'est-ce que vous préférez?
J'avoue que le féminin me heurte un petit peu, mais je le trouve trop nouveau. Mais bon, auteur, oui, ça ira très bien parce qu'on peut mettre un E muet, voilà. C'est parfait.
Vous êtes l'auteur de livre intitulé « Chronique de la pouponnière », édité à la maison d'édition qui s'appelle La Liseuse, édition que je découvre et vous nous parlerez peut-être aussi de cette maison. Un livre important, en tout cas épais, il y a plus de 400 pages, donc, et important aussi parce que vous traitez d'un sujet dont on parle peu, chronique de la pouponnière, c'est-à-dire que vous racontez l'histoire d'une personne qui a été embauchée, qui était infirmière et qui est embauchée dans une pouponnière quelque part en France. Bien, on va parler de ce livre. Vous avez pensé à l'écrire tout de suite après la fin de votre travail, parce que c'était peut-être votre travail à vous.
Oui, voilà. En effet, Gabrielle est infirmière, je suis infirmière, et j'ai passé 4 ans en pouponnière.
Oui.
Quand je travaillais dans cette pouponnière, je me disais que toutes ces histoires étaient dignes d'un roman.
Oui.
Et j'ai commencé à coucher 2-3 petites histoires comme ça. Et c'est quand je suis partie, c'est vrai, j'ai eu envie de relater un petit peu ce vécu. Mais quand j'ai commencé à l'écrire, en fait, j'ai écrit plutôt un témoignage, sous forme de témoignage. Ça n'avait pas du tout cette structure-là.
Oui, c'était assez surprenant au début, puisque vous dites chronique au pluriel. Mm-hmm. Et donc, c'est un très grand nombre de chroniques qui portent sur... la personne qui, cette infirmière qui est dans une pouponnière, et puis aussi sur les personnes qu'elle rencontre, qui sont soit des soignants, soit des enfants. Et alors on passe d'une chronique à une autre, c'est ça?
Voilà, c'est ça. En fait, on va passer à travers Gabrielle. On va... Disons que Gabrielle va vivre ses 4 années au fil de toutes les histoires qu'elle va rencontrer. Elle est en filigrane et il y a les histoires à hauteur d'enfant, puisque je me mets en fait dans la peau et dans l'esprit d'un enfant qui arrive à la pouponnière, à hauteur des éducatrices, du médecin, des cadres. J'ai une petite aisance là-dessus sur le fait de pouvoir me mettre dans la peau des gens.
Dans la peau des gens.
Voilà. Oui.
C'est ce qui est intéressant parce que du coup, on découvre un peu ce qu'on ne sait pas, ce qui peut être dans la peau d'un petit enfant, en l'occurrence, parce que la pouponnière, c'est surtout des tout petits que vous voyez.
Oui.
Quel est l'âge le plus grand ou de la plus grande? C'est quelques années.
La plus grande, normalement, c'est de quelques jours après la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans.
Oui, donc c'est très petit.
C'est tout petit, oui. Ouais, ce sont des vrais bébés, oui, oui.
Mais certains parlent quand même assez bien déjà.
C'est vrai, peut-être que je les ai trop bien fait parler, parce que je les comprenais trop bien.
Oui.
Mais oui, il faut aussi, il faut se mettre peut-être à hauteur de l'enfant, mais aussi pouvoir expliquer tout ce qu'il vit, tout ce qui lui manque, tout ce dont il a peur, tout ce qu'il craint et tout ce qu'il attend.
C'est ce qu'il y a de passionnant dans ce livre, c'est qu'on découvre effectivement beaucoup de choses qu'on ne sait pas ou dont on ne parle pas énormément, qui sont ces trajets que traversent, que parcourent des petits-enfants qui sont placés dans une pouponnière. Pourquoi ils sont-ils là? Il y a 1000 raisons et vous, à travers les diverses chroniques, on trouve effectivement différentes situations que vous présentez de manière très claire. On découvre aussi alors toutes ces chroniques des, vous dites, des éducatrices, des soignants, Les matrioshkas.
Les matrioshkas, oui. Parce qu'en fait, une pouponnière est partagée en plusieurs unités, ce qu'on appelle les unités. Ce sont globalement des petits appartements dans lesquels vivent certains enfants. Donc, chaque unité a un nom. Et là, en l'occurrence, donc, je donne tous les noms. Évidemment, je n'ai pas donné les vrais noms. Mmh. Mais les matrioshkas étaient une de mes unités préférées. Oui. C'était assez, pour moi, c'était plus facile, du moins, avec elles. Et oui, donc les enfants vivent dans ces unités à leur arrivée. Une unité leur est attribuée et ils restent à l'intérieur. Oui. Donc, en fait, pendant toutes ces années, ils ont des relations avec les enfants qui sont des relations fraternelles. Des relations très fortes et ils vont grandir donc avec ces éducatrices, ces maîtresses de maison, parce qu'il n'y a pas que les éducatrices, il y a également les maîtresses de maison qui s'occupent de la maison, de
matériel,
du côté matériel, oui, voilà. Et puis les infirmières qui passent. L'avantage de ma fonction, c'était une fonction qui était assez horizontale, qui me permettait de passer dans toutes les unités. Mmh. Et donc, j'étais en lien avec un petit peu tout le monde. Alors, non seulement j'allais dans ces unités, mais en plus, l'avantage, c'est que je pouvais aussi sortir les enfants pour des consultations à l'extérieur. Et ça aussi, c'était une grande découverte.
Oui, et pour le lecteur aussi, en tout cas le lecteur que j'étais, de découvrir effectivement, on le sait intellectuellement, qu'il faut aller quelquefois chez le médecin, parce qu'on le vit soi-même, mais...
Oui, oui.
Quand c'est un petit enfant, le choc que ça peut être de sortir d'un milieu comme celui-là. Et alors, des enfants, vous en voyez de toutes sortes. Pouvez citer quelques exemples d'enfants qu'on reçoit dans une pouponnière?
Alors, les enfants dans une pouponnière, en fait, on reçoit déjà les plus petits. Ceux qui sont accueillis quand ils sont à la naissance, pratiquement à la naissance, ce sont souvent les enfants qui sont nés au secret. Sous X. Donc ceux-là, on les prend en charge pratiquement dès la naissance.
C'est ce qu'on appelle né sous X, c'est
sous
ça?
Sous X ou oui. Au secret, oui.
Oui, au secret. Voilà. On dit plutôt au secret maintenant.
Oui, oui. C'est oui. Vrai qu'on disait sous X ou au secret, oui. Les oui. Deux peuvent se dire.
Donc c'est une des catégories, ça?
Voilà. Donc ça, ce sont les futures pupilles. Ensuite, vous avez tous les enfants donc, qui sont placés par décision judiciaire. Donc là, ça peut être à n'importe quel moment entre la naissance et les 3 ans.
Oui, oui.
Ça peut être juste... de toute façon, ce sont des décisions judiciaires. C'est l'ASE qui les place. Ça peut être fracassant parce que c'est la gendarmerie, enfin c'est les policiers, la brigade des mineurs qui va intervenir au sein d'un foyer. Et ça peut être très conventionnel parce que décidé et prévu. Voilà.
Et ce sont, il y a des cas évidemment très dramatiques pour la société, pour les personnes que vous êtes et qui accueillent ces enfants et pour les enfants eux-mêmes bien sûr.
Oui, oui, oui.
Quand il y a de la violence, effectivement.
Mais c'est vrai que bon, quand on les accueille, on ne connaît pas forcément toute leur histoire et on la découvre petit à petit. Et puis on laisse toujours un temps aussi à l'enfant pour s'adapter. C'est vrai que c'est tellement varié.
Oui.
Ça peut être des enfants aussi qui ont été maltraité, la maltraitance est le plus difficile quand même, la vraie maltraitance.
Oui.
Parce qu'il y a, la maltraitance usuelle, dans le sens où c'est verbal, où c'est un manque de soins. C'est tout aussi violent, mais...
Il y en a qui sont blessés carrément.
Ah oui, oui.
Il y en a qui sont blessés, meurtris.
Oui, sans parler de certains abus sexuels. Oui. Enfin bon, il y a des
choses... C'est aussi un des intérêts, parce qu'on découvre... On découvre cet aspect de la justice, enfin de la justice ou de l'administration qui est obligée de prendre des décisions graves par rapport à un enfant.
Et de protéger l'enfant, bien sûr.
Pour protéger l'enfant.
Oui.
Des enfants qui ont vécu des choses très, très compliquées. Vous allez aussi vous évoquer des questions médicales parfois. Vous découvrez, enfin moi j'ai découvert, mais apparemment l'auteur le découvre aussi, les enquêtes médicales,
voilà, oui, les enquêtes
profondes,
ouais. Médico-légal, oui. Mais
médico-légal, voilà, oui. C'est des situations...
Le médico-légal du vivant, c'est oui, vrai, je connais. C'est... J'ai découvert ça, en fait, oui.
Et c'est... Eh bien, alors, il y a tout un aspect dans le livre, on y reviendra sans doute, c'est les adultes et le parcours d'une personne comme l'auteur qui arrive dans une structure, qu'elle découvre toutes les responsables de cette structure, la direction, les différents les collaborateurs, les collaboratrices, les intérêts, les querelles peut-être, les jalousies et les chroniques. Donc, ces chroniques des personnes apparaissent aussi et font ressentir cet aspect des choses, la difficulté d'être employé dans une structure. Oui. Là, c'est pas, ça déborde largement la pouponnière. Ça pourrait être n'importe quelle structure.
Tout à fait, oui. Mais là, disons que j'ai parlé de mon expérience.
Oui.
En sachant que, comme vous l'avez lu, il y a des personnes qui avaient aussi subi certaines pressions. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que la pouponnière, bon, c'est un milieu déjà qui est très clos.
Oui.
On vit à l'intérieur, on reste à l'intérieur. C'est difficile d'en sortir, même quand on en sort le soir, on peut difficilement mettre un veto sur toutes nos pensées, sur tous ces petits visages, sur tout ce qu'on a vécu,
bien sûr.
Donc on les garde en nous et souvent on n'a qu'une hâte, c'est de les retrouver, de savoir comment ça s'est passé. Donc tout le monde est un petit peu dans cette dynamique-là. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de liens très forts, des belles relations qui se créent. Mais le problème, c'est qu'on est aussi dans un univers de femmes. Et c'est un univers qui, normalement, devrait être dans la bientraitance et la bienveillance. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que...
Elles sont toutes soumises aussi à cette pression-là.
Et voilà.
Elles vivent aussi toutes l'infirmière que vous êtes, mais même la direction qui doit... Elles subissent un peu le contre-coup de...
Mais bien sûr, oui. Oui, on est tous là... À vouloir faire le mieux, et puis tout le monde fait des erreurs.
Et puis dans le récit, là on pourra aussi y revenir, la famille de l'infirmière, elle n'est pas en dehors de ça. L'infirmière vit dans une famille, elle rapporte à la maison justement ses préoccupations, et ça peut se répercuter dans la famille, dans les entretiens. Mais là, apparemment, c'est une famille très, très unie et très, qui comprend les choses, qui comprend la maman. Mais en même temps, c'est pour l'auteur, pour l'infirmière qui est embauchée, elle ramène tous ses soucis et doit les partager. Voilà. Et les chroniques font vivre un peu cet aspect-là des choses.
Oui. Mais disons que j'essaye de remettre un petit peu l'infirmière, Gabrielle, dans son contexte à elle, dans son contexte familial.
Oui.
Et heureusement d'ailleurs qu'il y avait un bon tissu familial
qui
lui a permis d'avancer.
Ça compense un peu des peines et des souffrances vécues. Et puis alors un aspect qui est aussi valable, on l'a dit, dans toutes les entreprises, et où il y a un certain suspense, parce que on est soumis à des règles dans l'entreprise, on est peut-être victime de jalousie, et on peut être amené à devoir quitter, pourquoi pas. Et le récit donc aborde cette question. Je ne sais pas si c'est le cas de votre cas en tant qu'autrice, auteur, mais peu importe, c'est le personnage principal, il vit ses relations, il les vit difficilement, et il y a un certain suspense, je dirais, à un moment donné, on se dit, c'est les chroniques, on accumule les chroniques, mais on a envie d'aller plus loin pour savoir ce qui arrive au personnage principal, comment ça va se terminer, quoi. On a envie de le savoir, tout un éventail de situations. Bon, mais on va, après cet abord général, on va faire une petite pause. Je crois que vous avez choisi une musique.
Oui.
Eh bien, on va l'écouter.
Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't get me, darling?
Radio Alliance Plus, 103.2 FM. Nous sommes toujours avec Véronique Richard, qui est auteur d'un livre intitulé « Chronique de la pouponnière ». Alors Véronique, vous nous avez parlé en gros du livre, de votre propos, à travers ces diverses chroniques qui ont été vécues pendant plusieurs années dans une pouponnière où on accueille des enfants placés pour des quantités, des diverses raisons. On a abordé certains des aspects de ces chroniques. Maintenant, sur laquelle vous aimeriez revenir vous-même ? Ou lesquelles ? Parce
oui.
que, comme il y a beaucoup de chroniques.
Oui, oui. En fait, celle que j'ai eu le plus d'aisance à écrire, c'était celle de l'enfant, justement, né sous X. Ça commence avec une jeune femme qui arrive à la maternité et qui en veut un petit peu à la terre entière, qui va accoucher, qui est seule, qui est désespérée, qui souffre et qui ne comprend rien à ce qui se passe parce qu'elle est en enfer, elle vit un enfer dans un endroit tout blanc, tout aseptisé. Et il y a une jeune femme, une jeune élève qui arrive et qui lui prend la main et qui la soulage. Et elle a l'impression de voir arriver un ange.
Un ange.
Et un ange qui va enfin partager sa souffrance et qui va l'aider, qui va lui permettre d'aller jusqu'au bout de son acte. Et quand on lui demande de choisir un nom, si elle a choisi un nom, et en fait, elle choisit le nom de cette jeune femme pour son enfant.
Oui.
C'est le seul cadeau qu'elle va lui faire. Et ensuite, donc, cet enfant arrive avec une des éducatrices qui est sa référente. Et cette référente se met à aimer passionnément cette petite. Elle n'attend qu'une chose à chaque fois qu'elle part, c'est de revenir pour pouvoir s'en occuper. Et elle s'investit énormément pendant ces 2 mois. Et au bout du deuxième mois, donc, elle lui parle beaucoup à cet enfant. Elle fait partie de ce fameux conseil qui se positionne autour de l'enfant quand il doit être adopté. Et on suit donc l'évolution de cette petite pupille qui, au bout des 2 mois, n'ayant pas de nouvelles de sa maman, va pouvoir enfin être adoptée. Donc le conseil de famille va choisir des parents et ce conseil de famille va venir expliquer au bébé que les parents ont été choisis pour elle et qu'ils pensent que ce sera les meilleurs parents pour elle.
Le conseil de famille est composé de qui ?
De médecins, de l'ASE.
Oui.
Oui.
L'ASE, c'est l'action sociale pour l'enfance.
C'est ça, oui.
Oui, ce passage-là de l'adoption est très beau.
J'ai eu beaucoup de facilité, j'ai beaucoup aimé le faire.
Oui.
Parce qu'on a eu des pupilles, on a eu plusieurs histoires de pupilles comme ça. Et il y en a une que je n'ai pas écrite, l'histoire d'une autre pupille, parce que j'ai essayé de faire des chroniques sur des sujets totalement différents à chaque fois. Donc, je n'ai pas voulu reprendre le thème de la pupille. Mais on a eu une histoire qui était très belle aussi. C'est une petite qui est arrivée. Tout s'était bien passé. L'enfant était... C'était un bébé vraiment très facile. Donc, on supposait que ce n'était pas un enfant de jeune femme qui était sous exta ou sous drogue quelconque. C'était un enfant assez apaisé. Et au bout, juste avant le deuxième mois, la maman est revenue. Et on a appris en fait qu'elle avait fait un déni de grossesse.
Oui.
Et c'était une femme d'une quarantaine d'années qui avait déjà eu un enfant, qui avait une grande fille et qui s'était sentie complètement...
Paniquée.
Désespérée, ouais. Oui, elle n'a pas compris ce qui se passait. Elle a été mise, donc elle a fait ce déni, elle a accouché, elle n'était pas prête. Mais elle a eu ses 2 mois pour réfléchir et j'ai trouvé que c'était une des très belles histoires de la pouponnière.
Oui, ouais, alors donc c'est toute une série de chroniques. On passe de l'une à l'autre, on revient à un enfant, on revient à une soignante.
Enfin, voilà.
C'est assez varié.
Et toujours Gabriel en filigrane, oui. Ouais.
C'est Chronique de la pouponnière, édité par la maison d'édition La Liseuse. Et l'auteur, c'est Véronique Richard.
Donc je lis la chronique d'un accouchement sous X.
Oui.
Loin des murs de la pouponnière se jouait une pièce qui a tout de dramatique, mais qui va illuminer la vie d'un couple, un mal pour un bien. Car peut-on vraiment accueillir un cadeau du ciel avec un bonheur pur et légitime quand on a conscience du drame qui l'a initié ? Une femme va accoucher dans le secret, un accouchement sous X. Elle a pris la décision d'abandonner le bébé dès qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait plus avorter. Elle a tout fait pour ne pas s'attacher. Cela lui est assez facile tellement elle déteste son corps qui change, qui grossit, qui la déforme au point d'être incapable de porter ses jolies tenues. À la maternité, elle se présente, le regard désinvolte et provocateur. Pas de papier, rien pour la définir, rien pour l'identifier. Elle est anonyme, elle n'est personne, elle n'est rien, juste X. Des femmes se présentent pour la prendre en charge, lui assènent des recommandations qu'elle essaye de ne pas entendre. Elle lutte très fort contre elle, en silence, alors que ses entrailles se déchirent et que le combat est là, ailleurs que dans leurs mots. Elle voudrait leur hurler dessus, mais elle serre les poings, ferme les yeux, souffle fort, a l'impression de devenir une bête qui se meurt, un cochon qu'on égorge. C'est sûr, elle va y passer, elle va crever là, parce que là-haut, on veut la punir pour ce qu'elle va faire. Ce n'est pas possible de souffrir autant. Et les autres qui préparent tranquillement la salle, qui me parlent doucement, je suis incapable de comprendre un traitement de leurs conseils. Je suis dans un autre monde, celui de la douleur, celui de la peur. On m'écartèle, on me lance des piqûres venimeuses qui arc-boutent tous mes muscles. Ce n'est pas une vague qui déferle, c'est un tsunami destructeur, ravageur, qui va bien finir par m'avoir. Mes forces me lâchent. J'ai peur, je ne veux pas accoucher seule, je vous en supplie. Je ne tiendrai pas. Je vais mourir devant les sages-femmes, toutes de blanc vêtues, propres, à la voix douce, aux gestes calmes, on dirait qu'elles ne voient rien. Et là, Dieu se fait clément. Une main saisit la mienne, une main de femme. Je me tourne vers cette main, et ce lien est la chose la plus douce qui me soit arrivée depuis longtemps. Je ferme les yeux devant tant de félicité soudaine. Je serre la main, je lève les yeux, et je découvre une toute jeune fille, une princesse, avec un badge sur le poitrail, élève sage-femme, Emma. Elle me sourit et, comme pour m'encourager, exerce une pression plus forte dans la main. Je n'entends plus que sa voix. C'est elle qui sera mon guide. À son contact, je retrouve de la dignité. Je ne suis plus vraiment personne. Je reprends le cours de ma douleur, je calque ma respiration sur celle d'Emma. Je crie malgré tout quand je n'en peux plus. Mais je ne suis plus une bête perdue et seule. Je ne vais pas mourir et mon bébé vivra.
Merci, merci beaucoup. Oui, c'est vraiment des passages, des moments importants pour la vie du bébé et la vie de cette femme.
Oui, oui.
Autre question, est-ce que vous avez eu des réactions, j'imagine, de vos anciennes collègues qui ont lu votre livre? Comment elles ont trouvé?
Ben écoutez, justement, je suis allée à un salon sur Nancy et j'ai retrouvé beaucoup, beaucoup de collègues. Ah ça a été un salon très chaleureux pour moi. J'ai eu beaucoup d'amis qui sont venus pour faire dédicacer le livre qu'elles avaient déjà acheté.
Oui.
Et puis d'autres sont venus l'acheter.
Oui.
Et ça a été des rencontres en plus avec tout le monde, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties déjà de la pouponnière. Il y en avait de celles que je connaissais, beaucoup sont parties. Oui. Mais globalement, j'ai eu des personnes qui avaient quitté la pouponnière et qui, avec ce livre, m'ont dit « j'ai voyagé à nouveau dans la pouponnière, j'étais contente de retrouver la pouponnière en fait ».
Vous étiez leur mémoire.
Voilà.
Elles avaient peut-être oublié certains aspects.
Oui, ou elles ne le voyaient pas de la même manière.
Oui,
elles, voilà.
Oui, c'est tout à fait intéressant d'avoir ce retour.
Oui, oui, oui.
Et...
Mais il faut dire aussi que quand j'ai écrit ce livre, quand je l'ai fini, que je l'ai envoyé aux maisons d'édition, j'avoue que j'étais pas très tranquille en fait. J'étais pas très apaisée. Mmh. Et quand j'ai dû le réécrire, parce que au départ c'était plutôt un témoignage qu'un roman, quand j'ai dû le réécrire, je me suis attelée au fait. J'ai essayé d'effacer complètement l'endroit déjà où se situait la pouponnière. J'ai essayé de changer certaines histoires, hein, de changer le sexe de certains enfants. Évidemment, j'ai changé tous les noms, bien sûr.
Oui.
Mais j'étais un petit peu dans la crainte, vous voyez.
Oui,
j'étais pas tranquille.
On peut l'imaginer parce que effectivement, c'est très personnel et.
Oui.
Et
oui.
En tout cas, ça. Non, on a l'impression de savoir où c'est et en même temps, on ne peut pas le situer.
Non, c'est pas possible.
Là que vous avez bien
oui,
réussi.
Oui. Cette... Mais bon, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de rencontrer donc mon éditeur. Qui a lu le premier jet, en fait. C'était le premier jet que j'avais fait. Il m'a dit, mais non, ça ne va pas, c'est un témoignage.
Oui.
Et il faut que tu changes tout.
Oui. Ah,
donc, j'ai refait une écriture.
C'est un gros travail.
Oui, un gros travail. Et puis surtout, le fait de trouver cette structure de chronique, ça a été très compliqué. Et c'est...
Ça vous est venu petit à petit
J'ai discuté avec un de mes cousins qui fait de la systémie familiale et on discutait un petit peu de ce livre dont j'arrivais pas à coucher vraiment. Ouais. Et je ne sais pas ce qu'il m'a dit exactement, mais d'un seul coup, j'ai compris. J'ai dit stop, j'arrête la conversation, je viens d'avoir mon idée, ça y est, je sais comment je vais le faire.
Oui, ouais, c'est
voilà.
Bien réussi.
Mais c'est beaucoup de réflexion, c'est des projets qui demandent beaucoup de maturation. Ouais.
Et alors maintenant, vous allez continuer à écrire ?
Oui, j'ai presque fini un second roman.
Ah, bah, c'est bien.
Alors, c'est pas sur la pouponnière, en fait, c'est sur une saga familiale.
Oui. Et avec comme ça des paragraphes, des chroniques aussi.
Justement, mais je me posais la question sur la façon dont j'allais l'articuler. Ouais. Là, pour l'instant, je l'ai fait globalement, comme j'ai fait un petit peu pour les chroniques de la pouponnière. Et je pense qu'après, il va falloir que je le redéfinisse autrement.
Eh bien, bon courage pour la suite.
Merci.
Donc, Chronique de la pouponnière, écrit par Véronique Richard. Diverses chroniques sur les enfants, les personnels qui travaillent dans une pouponnière. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour présenter ce livre.
Merci, monsieur Delors, m'avoir
reçu.
Et
vous êtes donc sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM et DAB+. Et à bientôt, à vous entendre. Au revoir, Véronique.
Au revoir, monsieur Delors.
Partagez vos événements avec nos auditeurs en nous écrivant à agenda@radioalliance-plus.fr.